Bonjour, aujourd'hui on va parler Covid et eugénisme. Bah oui, fallait bien que ça sorte, hein. J'en avais un peu trop sur le cœur depuis un petit peu trop longtemps, alors j'ai hésité sur le format, est-ce que je devais faire une vidéo YouTube ou pas? Alors finalement non, parce que ma chaîne YouTube au départ elle a été créée pour parler biostat, et je veux plus faire de billets d'opinion sur cette plateforme. Voilà, donc ça sera sur le blog ou en podcast, comme ce que je suis en train de vous faire maintenant. Ah, et pour partir sur des bonnes bases, ce podcast, il représente mes opinions personnelles, mes réflexions, et vous pouvez être tout à fait en désaccord avec ce que je dis, hein. Y a aucun problème, pourvu que vous ayez des arguments valables, pas de souci. Alors pour remettre le contexte, ben depuis peu je suis assez effaré par les différents comportements observés pendant cette pandémie. Parce que bah oui c'est long, oui c'est chiant, oui c'est difficile. Et encore, bah moi j'ai de la chance, hein, parce que j'ai un job qui va bien, avec un salaire qui tombe régulièrement, mais quand même, j'observe dans la population un eugénisme décomplexé, alimenté par une sphère complotiste contre laquelle aucune action publique n'est entreprise. Et cet eugénisme, je l'ai vu surgir dans mon entourage proche, de la part de deux personnes qu'on ne peut pas du tout qualifier d'individualistes. Au contraire, ce sont des gens avec un sens aigu de la vie en collectivité. Et ce décalage, presque cette dérive, j'ai envie de dire, c'est le fruit de plusieurs paramètres. Deux surtout, premièrement une mauvaise estimation du risque réel du Covid, et deuxièmement une gestion de crise catastrophique. Et cet eugénisme, ce « tant pis pour eux, c'est des vieux », eh ben c'est tout ce que je redoute en temps de crise, où finalement la société ne peut s'en sortir qu'en faisant corps. On va commencer par l'estimation du risque, et par cette mauvaise estimation du risque réel. Alors prenons un personnage fictif, qu'on va appeler Yann. En mars 2020, Yann cède un peu à la panique. Révolte contre les masques non disponibles, désinfection des courses en rentrant du supermarché, une peur panique de contracter le virus. En mars 2021, Yann se dit que, quand même, on en fait beaucoup pour un truc qui tue des gens qui sont déjà presque morts, et puis, bah, finalement, qu'on serait quand même bien mieux avec tous les trucs qui rouvrent. En 2021, il en vient à dénoncer ces, je cite, « marchands de peur qui veulent nous contraindre ». Entre mars 2020 et mars 2021, le risque associé au Covid n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la perception de ce risque par Yann. Surévalué en 2020, sous-évalué en 2021. Mais ce risque, quel est-il vraiment? Alors, reposons le contexte. Le Covid, c'est une maladie pas trop grave en soi, mais hyper contagieuse. Hyper contagieuse parce qu'une personne est contagieuse jusqu'à 2 jours avant de montrer les premiers symptômes. Donc concrètement, si vous commencez à tousser le lundi et que vous êtes allé au bar ou en boîte le samedi soir, bah vous avez contaminé des gens. Et là encore, c'est dans le cas des gens qui ont des symptômes, qui vont être un peu patraques et qui vont rester à la maison quand ils sont grippés. Mais une bonne proportion des gens contaminés sont asymptomatiques et ne vont en rien changer leur vie. Mais ils vont être aussi contagieux. Et le problème de cette contagiosité, c'est qu'elle induit une croissance exponentielle des contaminations si elle n'est pas maîtrisée. C'est mathématique, c'est comme ça, c'est la base de l'épidémiologie. Quand on ne fait rien, chaque personne contaminée va en contaminer environ 3, avec un temps de génération d'environ 7 jours, hein, en gros à la louche, donc si vous êtes contaminé le lundi suivant vous aurez contaminé en gros 3 personnes, ce qui engendrera 9 contaminations la semaine d'après, 27 la semaine suivante, etc. Et en 3 mois c'est plus de 500 000 contaminations, en 4 mois 43 millions. C'est le côté piégeux de l'exponentielle, ça augmente super vite, et donc très vite, si on fait rien, l'ensemble de la population est contaminée. Et c'est pas alarmiste du tout de le dire, hein, c'est juste un constat. Voilà, il s'agit pas de paniquer, mais de comprendre le mécanisme. Donc sans gestion de l'épidémie, presque tout le monde sera contaminé. À partir de là, il y a 2 scénarios possibles. Le premier, c'est que le système de soins tient le coup, et tout le monde peut être soigné. Le deuxième, c'est que le système de soins est saturé, et on ne peut plus prendre en charge les cas graves. Pour le premier scénario, le cas où le système de soins tient le coup, bah on a des données assez précises. Vous avez, suivant votre âge et votre sexe, entre 0,1% et 15% de chances de mourir. Vous avez entre 1% et 40% de chances de finir à l'hôpital, et, si vous êtes hospitalisé, vous avez entre 10 et 40% de chances de finir en réanimation. Ah, et vous avez de bonnes chances d'avoir des séquelles longues avec un poumon endommagé à vie. Donc, pour recontextualiser, on est dans un scénario où on ne contrôle pas l'épidémie et vous allez forcément choper le Covid. Maintenant, prenons la mesure du risque et risquons-nous à une analogie, avec les limites que cela comporte. Hein. Mais imaginons que devant vous, il y a une porte, et vous avez le choix de l'ouvrir ou pas. Si vous l'ouvrez, vous avez entre 1 chance sur 100 et 1 chance sur 2 de finir à l'hôpital, et entre 0,1% et 15% de chances de mourir. Que faites-vous? Comment percevez-vous ce risque? Maintenant, si vous ouvrez la porte, vous obligez la moitié de votre foyer à ouvrir une porte similaire. Ça correspond aux gens que vous contaminez. Comment est-ce que vous évaluez le risque? Est-ce que vous décidez d'ouvrir la porte ou pas? Une autre façon de considérer le risque de mourir, c'est de se dire qu'une personne qui décède du Covid aurait dû vivre en moyenne entre 10 et 15 ans de plus. Ça, c'est les dernières études qui nous le montrent. Donc bon, clairement, on n'est pas dans quelque chose qui touche que les vieux en fin de vie. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où le système de santé tient le coup. Ce qui n'est pas le cas si l'épidémie n'est pas contrôlée. Dans le scénario où l'épidémie est hors de contrôle et où le système de soins ne tient pas, à combien estimez-vous le risque de mourir si vous nécessitez une hospitalisation? À combien estimez-vous le bilan dans la population? Et est-ce que vous choisissez d'ouvrir la porte? Si la réponse est non, ça veut dire que vous considérez qu'il est préférable de ne pas choper le Covid. Alors on voit bien que dans cette gestion du risque, il faut distinguer le risque individuel du risque collectif. Le risque individuel, à la limite, on peut se dire que bon bah, c'est une responsabilité individuelle, sauf qu'en réalité, chaque risque pris individuellement se traduit sur une augmentation du risque collectif. Le risque collectif, c'est l'effondrement du système de soins, la possibilité de contaminer ses proches, etc. Et pour réduire ces risques, on a deux possibilités, éviter d'être contaminé ou avoir des traitements efficaces. Au niveau des traitements, bah, les seuls ayant fait leur preuve sont les corticoïdes, pour les patients en réanimation, et il n'y a à ce jour pas de traitement précoce efficace. D'ailleurs, des traitements efficaces ne permettraient de réduire que partiellement ces risques collectifs, puisqu'ils n'influent pas sur le nombre de personnes contaminées. Donc voilà, ça c'est le constat, c'est comme ça que les choses sont. Ceux qui disent que le Covid est anodin mentent, tout comme ceux qui disent qu'on va tous mourir. La réalité est entre les deux, et c'est avec ça qu'il faut composer. En Europe, les différents gouvernements ont pris des mesures de restriction de liberté pour limiter le rythme des contaminations. Ça marche à peu près et l'épidémie ne s'emballe pas. Quand elle s'emballe, on arrive à la ralentir. Donc le désastre annoncé n'a pas lieu. Les hôpitaux tiennent le coup, il y a relativement peu de morts, relativement. En tout cas, bien moins que les 400 000 annoncés si jamais aucune mesure n'était prise. Et cela crée une discordance entre le risque réel, qui est maintenant bien compris, et le risque perçu. C'est comme si vous êtes en voiture avec quelqu'un qui conduit un petit peu vite et vous savez que vous arrivez sur un virage qui est très serré. Vous dites au conducteur qu'il doit ralentir, sinon vous allez finir dans le champ. Le conducteur ralentit, vous passez le virage tranquillou, et là le chauffeur vous dit « bah tu vois bien que ça passe tranquille, il n'y avait pas besoin de freiner ». Sauf que vous, vous savez que c'est faux, s'il n'avait pas ralenti, vous étiez dans le champ. Donc forcément, ce décalage entre le risque réel et le risque perçu nous fait douter du bien fondé des mesures restrictives pour limiter les contaminations. C'est normal. Moi-même, à un moment, j'en suis arrivé à souhaiter choper le Covid pour être immunisé et être tranquille. Bon, a posteriori, c'était pas hyper malin, mais bon. Dans ce doute, arrivent les marchands de peur. Mais les vrais marchands de peur, hein. Pas les épidémiologistes, non, non. Les complotistes. Les complotistes et les autres m'as-tu vu de plateau télé jouent sur cette mauvaise perception du risque, sur cette lassitude, sur ce doute, pour répandre des fausses informations et soutirer du pognon aux gens. Ils disent des mensonges agréables à entendre. Par exemple, que le Covid n'est pas dangereux. Qu'on a un traitement que le gouvernement refuse de donner. Que tout ça est un complot. Et on a envie de les croire. On a envie de croire que c'est pas grave, qu'on a des solutions, etc. On a envie de croire qu'il y a un complot contre lequel on peut se révolter. Ce sont des mensonges qui sont faciles à entendre. Alors que la vérité, elle est dure à entendre, bah parce que oui, c'est grave, et non, on n'a pas de solution. Et en vous vendant ces discours, bah ces vendeurs de faux espoirs manipulent les gens pour faire du blé. Vraiment beaucoup de blé. Parce que vous pensez que les producteurs de hold-up sont des philanthropes? Ou que les types de François sont des héros défendant le petit peuple opprimé? Non. Ils gagnent juste beaucoup d'argent en diffusant ces fausses informations, et ils ont un allié avec eux, un gouvernement qui gère cette crise avec le cul. Ce qui nous amène dans cette deuxième partie de podcast, une gestion catastrophique. Lors de la première vague du printemps 2020, le gouvernement a globalement pris la bonne décision, qui était de confiner strictement la population pour mettre un gros coup de frein à l'épidémie. Et ça a super bien marché, hein, puisqu'on est retombé à un niveau de contamination très bas vers mai, suffisamment bas pour qu'on profite un peu de l'été. C'est après que ça s'est gâté. Bon, on passe sur la communication au niveau des masques qui était tout à fait foireuse, mais ce que le gouvernement a loupé, c'est le déconfinement. Le déconfinement, il ne pouvait fonctionner que si la chaîne TAP, TAP, pour tester, alerter, protéger, fonctionnait. Or, il y a eu des ratés majeurs à ce niveau, avec des délais beaucoup trop longs pour obtenir un rendez-vous de dépistage. La chaîne TAP a foiré. Là-dessus, inévitablement, l'épidémie est repartie, en bruit de fond, mais les indicateurs étaient clairs dès juillet. La reprise était exponentielle et on allait se ramasser un taquet à l'automne. Là où c'est frustrant, c'est que le conseil scientifique avait alerté très tôt sur ce scénario et qu'il n'a pas été écouté. Le gouvernement n'a, à ce moment-là, rien fait pour limiter les contaminations et a réagi bien trop tardivement quand les réanimations ont commencé à se remplir. La frilosité du gouvernement à prendre des mesures est pour moi due à deux choses. Premièrement, la prolifération des discours dits rassuristes durant l'été. Alors vous savez, c'est ces gens qui disaient qu'on avait d'abord une épidémie de tests, qu'il n'y ait pas de malades, puis pas d'hospitalisation, puis pas de réanimation, puis pas de mort, et puis qui ont fini par disparaître des plateaux télé. Et deuxièmement, l'infantilisation de la population, et par ça j'entends le fait d'imposer des mesures de façon verticale, en disant aux gens « faites-nous confiance, on a raison », de la même façon que des parents vont dire « à leur enfant, t'es trop petit pour comprendre ». Alors, je m'explique, hein. Comme le gouvernement a considéré que les gens étaient trop idiots pour piger une épidémie, bah il n'a rien fait pour dénoncer ou contrer les discours rassuristes et les mensonges associés. Il n'a pas essayé d'expliquer tout ce que je vous ai expliqué avant. Non, non. On a juste considéré que les gens allaient gueuler, et qu'ils étaient trop cons pour comprendre, ce qui est scandaleux. Les gens sont parfaitement capables de comprendre si on ne les considère pas comme des débiles. L'autre hypothèse, bah, c'est que le gouvernement a surestimé la réactance des gens aux annonces. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que les gens allaient s'opposer aux mesures fortes émanant du gouvernement. Bon. Bah, ça retire pas le fait qu'une communication claire et transparente, ça permet de faire baisser cette réactance. Bref, à ce moment-là, le gouvernement a manqué de courage et de clairvoyance. Et à partir de là, c'est du n'importe quoi. La seule variable d'ajustement, c'est le remplissage des réanimations. Tant que c'est pas trop plein, on fait rien, mais on laisse l'épidémie courir avec le pied sur le frein pour pas que ça s'emballe trop. Le pied sur le frein, vous le connaissez, c'est le couvre-feu à horaire variable que le gouvernement ne veut pas appeler confinement. Sauf que bon, bah quand concrètement vous n'êtes en dehors de chez vous que pour bosser, on peut appeler ça un confinement. Et comme le gouvernement pense que les gens sont débiles et qu'ils ne supporteront pas des mesures plus restrictives, le gouvernement s'accommode d'un petit plateau à 400 morts par jour. Parce que bon, pourquoi pas. Nos dirigeants ne sont plus dans une gestion rationnelle de l'épidémie, mais dans une gestion politique et émotionnelle, qui est de contrarier le moins possible la population tout en maintenant l'économie, en ayant l'air compétent. Parce que bon bah, les élections c'est bientôt. Sauf que je sais pas vous, mais prendre des gens pour des cons, c'est vachement contrariant quand même. Bah alors, on peut se consoler en disant que c'est quelque chose qu'on n'observe pas que en France, mais quand même. Là, on se retrouve avec un train de mesures incomprises, avec des aberrations manifestes, comme le déni du fait que les écoles sont des lieux de contamination entre les gamins, qui ramènent le virus chez eux et contaminent les parents. Alors qu'on se méprenne pas, hein, y a un vrai enjeu de santé publique à laisser les enfants scolarisés, notamment parce que pour un certain nombre d'entre eux, bah, la cantine garantit une alimentation correcte. Mais il aurait peut-être fallu l'expliquer franchement et assumer ce choix, en n'occultant pas le fait que les gamins se contaminent en mangeant, et donc on aurait pu mettre en place des aménagements de temps de repas pertinents. Mais non. Emmanuel Macron, qui est maintenant qualifié de presque épidémiologiste par sa cour fascinée par lui, fait des paris politiques pour sa réélection. Et quand ça commence à partir en vrille, bah, il en appelle à la responsabilité de chacun. Sauf que, appeler à la responsabilité de chacun, c'est dire aux gens que si ça se passe mal, c'est de leur faute, pas celle du gouvernement. Or, les gens sont déjà responsables. Ils sont déjà responsables. Alors oui, il y a quelques champions qui font un peu de résistance, qui savent pas porter le masque, qui ne respectent pas le couvre-feu, mais dans l'ensemble, des gens sont vachement responsables. Et ils sont pleins de bonne volonté, mais ils en ont marre. Ils en ont marre parce que ça fait 6 mois qu'ils vivent sous la contrainte sans trop se plaindre, mais pour aucun résultat. Si on expliquait aux gens qu'on allait confiner très strictement 4 semaines pour ensuite vivre en 4 semaines à peu près normalement, bah je pense qu'ils seraient moins affectés par la situation, parce qu'au moins ils auraient l'impression de faire l'effort pour quelque chose. Pour le moment, les gens ont l'impression de faire tous ces efforts pour rien. Parce qu'on les prend pour des cons et que l'épidémie est plus ou moins régulée, bon ça va pas durer, ils endurent des restrictions de liberté, mais ils finissent par se demander à quoi ça sert tout ça. Ils finissent par se dire que c'est quand même beaucoup de contraintes pour 3 vieux qui meurent. Là, c'est incompréhensible. Le meilleur exemple, ça reste l'objectif des 5000 contaminations pas atteintes avant les fêtes, mais qui n'a entraîné aucune mesure particulière alors qu'il était annoncé comme la condition sine qua non pour les fêtes de fin d'année. Si on ne respecte pas des objectifs et des contraintes qu'on se fixe, alors à quoi se fier et à quoi ça sert de fixer des objectifs? En gros, les gens font des efforts et ils n'en tirent aucun bénéfice. En tout cas, aucun bénéfice perceptible. Ils n'ont aucun répit. Et le problème, c'est que le choix a été fait de vivre avec le virus. Et donc on gère un flux de contamination continu qui nécessite des contraintes fortes pour réguler le flux. Et ça, bah, ça entraîne son lot de détresse dont le gouvernement s'accommode bien, hein, des étudiants précaires, les restaurateurs, etc., les PME. C'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Une autre stratégie, appelée zéro Covid, consisterait à ramener les contaminations à un niveau très 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 bas, de mettre en place un TAP, donc un dispositif de test et de tracing extrêmement performant, notamment en permettant une isolation stricte des malades et des cas contacts. Ça permettrait de reprendre une vie à peu près normale, et notre société elle en est parfaitement capable. Mais pour ça, il faut recommencer à considérer que la société est composée d'un ensemble d'individus responsables et pas une masse informe de débiles. Et il faut aussi arrêter d'utiliser cette pandémie comme un outil politique, parce que oui, aujourd'hui, cette pandémie, elle sert des objectifs politiques. Et donc, à partir de là, ce que je me dis, c'est que il faut qu'on reparle de science. Parce que la source du problème, quand j'y réfléchis a posteriori, c'est le manque de science. On a tendance à considérer que la perception scientifique de l'épidémie, elle est trop complexe. Et donc, on ne l'explique pas aux gens. Bon. Alors certains d'entre nous ont bien essayé en faisant de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, mais notre portée elle est bien maigre à côté de celle des grandes chaînes de télé qui, à de rares exceptions près, servent une soupe d'opinion populiste infondée. Ouais, c'est news. Je parle de vous. Parce que quand le grand Pascal Praud découvre en septembre qu'il n'y a pas de lit de réanimation à l'IHU, on a à quel degré de compréhension de l'épidémie? Mais surtout, on a à quel degré de foutage de gueule? L'erreur des médias en général, bah c'est d'avoir jour après jour, marteler des chiffres ad nauseam au point qu'avoir 400 morts par jour devienne une réalité acceptable. Au lieu des experts en rien, spécialistes en tout, qu'on se tape toute l'année sur tous les sujets du monde, alors vive l'omniscience, les grandes chaînes d'infos continues auraient dû faire de la vulgarisation pointue. Les gens sont prêts à la recevoir. La science est technique, mais c'est explicable, il y a des gens très compétents pour ça, comme Tania Louis, Doc Primum, etc. Il y a des scientifiques organisés en collectif pour essayer d'apporter des réponses scientifiques sur le Covid. Les gens comprennent, ils sont pas idiots. Et je vais vous faire une confidence. Quand on a la condescendance de considérer son interlocuteur comme un béotien incapable de comprendre des concepts scientifiques pointus, alors d'une part, on n'arrive pas à lui expliquer, parce qu'on s'adresse à lui sur un mode qu'il ne peut pas comprendre, et d'autre part, celui-ci a pas envie de nous écouter. C'est important d'expliquer le Covid en termes scientifiques parce que jusqu'à maintenant, la science s'est pas trop trompée. Les hypothèses les plus probables se sont à chaque fois révélées exactes. Le problème, c'est que sont mis sur le même plan hypothèses, scénarios et observations. Et les scénarios qui ne sont pas réalisés sont vus comme des prophéties alarmistes mises en avant par un gouvernement manipulateur. Non sans raison d'ailleurs, puisque le gouvernement exhibe ces scénarios comme des épouvantails pour provoquer une réaction émotionnelle de la population. Or, ces concepts, on peut très bien les expliquer. Une Dominique Costagliola ou une Catherine Hill peuvent le faire merveilleusement bien. Il faut aussi qu'on arrive à expliquer l'incertitude. Qu'en science, on dresse des hypothèses que l'on confronte au réel afin de les évaluer. Puis on les affine, on les réfute, et il faut qu'on apprenne aux gens que celui qui se présente comme détenteur d'un savoir absolu face à une situation dont la principale caractéristique est l'inconnu est un menteur au mieux, un manipulateur au pire. Il faut qu'on explique aux gens que c'est ok de savoir ce qu'on sait pas, et même parfois de pas savoir ce qu'on sait pas. C'est seulement en identifiant nos lacunes qu'on peut réfléchir à des solutions. Quand on croit que la vérité existe mais qu'on nous la cache, il n'y a plus de raison de réfléchir, seulement de se révolter. Et ce que je retiens de cette crise, c'est que face à l'inconnu, face au stress, l'homme a besoin de réponses. Souvent, la réponse la plus satisfaisante est celle qui est apportée en premier. C'est à partir de là que le reste de la perception face à l'inconnu se construit. Surtout quand cette réponse nourrit l'émotionnel. On l'a vu en mars 2020 avec cette fameuse vidéo virale du pseudo-gilet jaune qui pensait que l'Institut Pasteur avait inventé le Covid, en s'appuyant sur un brevet qu'il ne comprenait pas. Bon. Donc, charge à nous d'apporter une explication scientifique claire et rapide. C'est pas simple, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sans cette base rationnelle, les crises sont le lit du populisme, qui conduit la société à évoluer dans des directions un peu sales. Vraiment. Et ce manque de science, ce populisme, et cette récupération presque honteuse, c'est ça qui a conduit mes deux proches à accepter le discours qu'on pouvait sacrifier nos anciens pour sauver une génération. Et c'est un discours qui n'est pas soutenu par la réalité scientifique de cette pandémie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est un petit peu mes états d'âme. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant dans ce podcast.